projet, Mbappé? Ah, le fameux ticket de loto? C'est ça, bah, il faut bien trouver quelque chose, hein. Les retraites, c'est mal barré, donc...
Bonjour à toutes et à tous, vous pensiez écouter Zoom Zoom Zen, bienvenue dans Noël sans flamme. Oui, on va parler foot cet après-midi avec des experts du ballon rond, puisque je rappelle que vendredi dernier, alors qu'elle nous racontait l'épopée des Bleus à l'Euro 84, Manon s'était exclamée en conférence de rédaction « Mais c'était qui au fait, Batiston ?» Oh, un pote de Guirès avait commenté ironiquement Giresse. Cyril. Ben oui, mais je fais exprès de te mettre un Guirès dans la bouche, t'es con comme un balai, toi, c'est pas possible.
C'est pas possible, n'importe quoi aussi.
Ce qu'elle nous dit, avait commenté ironiquement Cyril, notre rédac chef, qui avait deux avantages sur Manon, être né en 84 déjà, et avoir été à cette époque d'ailleurs le gardien du FC Ponto Combo. Si les poteaux étaient alors carrés, ses pieds aussi, se souviennent ses coéquipiers, qu'il avait surnommé la passoire du 77. Une chose est sûre, sportivement, Cyril n'a jamais fait l'objet d'aucune pression. Ses parents n'avaient établi pour lui aucun plan. Mais voilà, les temps changent. Et aujourd'hui, le foot amateur est confronté à un gros problème qu'on appelle le projet Mbappé. En cause, l'obsession de certains parents à faire de leur enfant le prochain Kylian Mbappé. Convaincus que leur rejeton est un prodige du ballon rond et une superstar en herbe, certains désormais jusqu'à menacer, voire violenter des éducateurs pourtant bénévoles s'ils ne le mettent pas titulaire le samedi. Après les parents convaincus que leur gosse est HPI, zoom donc cet après-midi sur ces parents qui croient dur comme fer que leur gosse est HPF, à haut potentiel footballistique. Qui sont ces papas, ces mamans qui ont décidé de tout miser sur la carrière footballistique de leur enfant? Quelles conséquences pour lui quand il ne répond pas à leurs attentes? Quelles conséquences sur l'univers du foot amateur? Et surtout, le 20 juin 2003, lors du tournoi intercommunal de Saint-Germain-du-Corbéis, le père de Quentin lui a-t-il eu raison de cracher au visage de l'entraîneur qui laissait son fils sur le banc alors que, je cite, « s'il avait pas refusé de lui injecter de l'hormone de croissance, ce serait le Léo Messi de la Lançonnée ». Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen.
Il y a des joueurs de foot très petits. Hein.
Oui, bah Valbuena déjà. Mais bon, j'aurais
pas belle carrière.
Oui,
petit vélo.
Mais mon père était assez persuasif. Sacré Stéphane.
Oui, il était coriace. Bonjour, Séguir Lazeri.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Séguir, vous êtes sociologue du sport. Vous travaillez notamment au laboratoire Sport, Expertise et Performance à l'INSEP. Et vous écrivez aussi dans le Nouvel Obs. Vous allez nous expliquer ce qu'on appelle donc le projet Mbappé. Juste le temps de vous présenter mes deux latéraux qui débordent souvent, pas toujours très précis dans la dernière passe, mais plein d'allants. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour
à tous.
Et bonjour tout le monde.
À vos côtés, Séguir, s'il faut reconnaître que le projet Mbappé a marché, pour Kylian en tout cas, il faut avoir la lucidité d'admettre que le projet Marianoche, lui, a échoué aux portes de la salle de boxe, que Manon a finalement jamais eu la motivation de franchir, préférant se rabattre sur le pilate. Manon, bah, pas encore, non là je crois que c'est foutu Manon.
Mais on vous a offert des gants pour votre anniversaire.
Vous m'avez mis la pression, mais bon.
Des gants à paillettes, ouais. On vous a offert.
Et puis je fais des cours de cuisse abdos fessiers, j'y vais ce soir, donc voilà, excusez-moi.
Ça progresse donc doucement. Le projet Marianoche avance doucement. Manon, cet après-midi, vous qui vivez football, hein, qui respirez football, vous nous indiquerez l'autre personne à suivre si on veut comprendre ce projet Mbappé.
Il y a des mères derrière les joueurs de foot, mais il y a aussi des femmes, et une en particulier qui a façonné l'image d'un joueur anglais que l'on connaît tous très très bien.
Face à vous, Séguir, oui, une petite piqûre au bon moment, il serait peut-être devenu le Léo Messi à l'Ançonnais, le Pelé du bocage normand. Hélas, ses parents n'ont pas été suffisamment derrière lui à l'adolescence, ils ont été tellement laxistes qu'ils l'ont laissé se perdre dans le rock'n'roll. Quentin, c'est, j'imagine, assez remonté contre vos parents que vous avez entamé votre micro-trottoir aujourd'hui.
J'ai jamais été très bon en sport. Je me suis rendu, en revanche, sur les bords des terrains. J'ai vu des U10, des U12, des U13 et forcément leurs parents à côté. Alors, où en sommes-nous du projet Mbappé? Ont-ils la pression, les enfants? Réponse dans ce micro-trottoir complètement à la rue. Que dis-je au bord du terrain et au bord du beau jeu?
Au bord du beau jeu, effectivement. Vers 16h30, il y a le projet Mbappé, il y a aussi le projet éclaté. Aujourd'hui, dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la découverte de ceux qui ont percé dans le sport de haut niveau avant de connaître une chute brutale, un peu à l'instar du portier du FC Ponto Combo, mais en pire encore. Juste avant 17h, nous serons rejoints par celle qui, à l'école, était plus latin-grec que PS, Rosa Burstein. Mais d'abord, Séguir Lazeri, quand on voit les actuels résultats sportifs de Kylian Mbappé, est-ce qu'il est toujours tant que ça un modèle pour les parents au bord des terrains des U11, des U12, des U13?
Oui, on peut dire oui, hein, effectivement, parce que quand même, il a un palmarès, il a une notoriété, il a une visibilité aussi, surtout. Donc, il reste à peu près le point central à atteindre, en quelque sorte, dans les carrières et tout au long de la performance sportive, effectivement. Les parents, surtout, en fait, l'idée, c'est surtout que les parents d'Mbappé sont visibles. C'est ça qui est très...
Oui, c'est que la mère Mbappé est là. C'est ça qui inspire les parents.
Les parents de Mbappé sont présents dans les tribunes, sont présents même dans des réseaux d'interconnaissance, c'est-à-dire que le père de Mbappé se retrouve au Variété Club de France à jouer avec Jacques Vendroux ou je ne sais qui d'autre, et même le président Emmanuel Macron d'ailleurs, parce qu'il a joué avec. Donc effectivement, il y a une présence des parents, et c'est ça sans doute qui peut mieux représenter le projet Mbappé, c'est-à-dire cette forme de reconnaissance que les parents ont finalement dans leur activité.
Avec nous également Séguir pour introduire notre sujet du jour. Il fut clairement le Mbappé du journalisme média. Une ascension stratosphérique jusqu'aux cimes de la matinale d'Inter la saison dernière, notre Champions League à nous, Jean de Radio. Et puis la chute, brutale, terrible. La non-sélection par Marc Fauvel, notre Didier Deschamps à nous, condamné à cirer le banc de touche de Zoom Zoom Zen pendant au moins une saison. En plus, contrairement à Mbappé, moi j'ai même pas croqué en Suède, commentera amer Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Pas en Suède, mais bon.
Mais ailleurs. Alors dites-nous, vous, la légende du FC Porto Combo, le projet Mbappé, déjà, d'où ça sort ?
20 décembre 1998, naissance de Kylian Mbappé, 6 ans plus tard. Il commence le foot à l'AS Bondy. À 13 ans, il intègre la sélection de l'Institut National du Foot à Clairefontaine. 2 ans plus tard, direction l'AS Monaco. Première sélection chez les moins de 17 ans en 2014. Il passe pro en 2015. Première sélection chez les Bleus en 2017. Il a 18 ans et 3 mois. Première Coupe du Monde un an plus tard, 15 juillet 2018. Il marque 4 buts. Il en marquera 2 fois plus, 4 ans plus tard au Qatar, dont 3 seulement en finale. C'est ce qu'on appelle une machine de guerre. Et ça ne serait pas un cas unique si il n'y avait pas un système derrière tout ça, et vous avez commencé à l'évoquer, où donc on a choisi de l'appeler le système, un projet Mbappé. Ce projet, il existe grâce à Wilfried Mbappé et Faïza Lamari, le père et la mère du jeune prodige. Lui, c'est un ancien joueur de foot, jamais passé pro, mais devenu entraîneur. Elle a été joueuse de handball. Les parents Mbappé, ce sont les premiers architectes de la carrière stratosphérique de leur fils.
Qui d'autre, alors, dans ce premier cercle ?
Son avocate, pour commencer, maître Delphine Verheyden. Elle est de toutes les grandes décisions dès lors qu'il y a un enjeu contractuel. Comme quelques sportifs de cette génération, Kylian Mbappé n'a pas d'agent, ses parents et son avocate règlent tout pour lui. Ce qu'on a longtemps cru être une force pourrait en fait être devenu une faiblesse. C'est ce que disait Zlatan Ibrahimovic il y a 2 ans déjà.
Quand un enfant devient fort, il peut gagner facilement de l'argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D'une chose, ils en deviennent une autre. Et c'est le problème. Papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux.
Depuis quelques mois, la machine s'est enrayée. Fin chaotique au PSG, début difficile au Real, absence chez les Bleus, soupçon d'enquête pour viol dans une excursion coquine en Suède. Alors, une autre avocate est entrée dans la danse, et puis une agence de com également, pour pallier au manque de la galaxie Mbappé. Preuve que si le projet peut inspirer des parents, il n'est pas la garantie de tout réussir, et c'est ce dont on va parler durant une heure.
Merci Cyril. C'est Galadry, on l'a vu avec Cyril. Ce projet Mbappé, c'est avant tout une histoire de foot. C'est dans le foot qu'il y a ce genre de projet.
Alors, c'est dans le foot, oui et non. En fait, c'est dans le foot en France notamment, parce que Mbappé, le foot est le sport déjà le plus visible et qui concentre le plus d'intérêt à la fois médiatique, économique et donc d'intérêt social. Et finalement, il y a une concentration effectivement d'une part assez grande de la population. C'est le sport qui concentre le plus de licenciés, avec 2 millions de personnes. 2 millions d'individus qui vont tous les dimanches matin partout en France jouer au football. Et effectivement, donc, en vue de cette réussite présentée, exposée, effectivement, il y a des parents qui anticipent la chose en surinvestissant parfois l'activité des enfants. Mais ça existe ailleurs. Hein. On peut penser notamment au projet, projet Williams, c'est-à-dire que les parents de Serena et Venus Williams, le père notamment, qui a fait l'objet d'un biopic, illustre aussi cette idée de surinvestissement parental dans la carrière des enfants.
Mais moi j'ai une question pour vous. Est-ce que Mbappé ne serait pas devenu Mbappé sans que ses parents l'aient coaché de cette manière-là ? Est-ce qu'il n'a pas un talent intrinsèque ? Ils l'ont certainement aidé à mûrir, à éclore, mais est-ce que ce n'est pas se leurrer pour des parents lambda de se dire que leur gamin est un prodige du foot qui va forcément devenir Mbappé si tout les conditions sont réunies. Il y a une part de génétique, de génie.
Alors là, pour le coup, je vais vraiment me poser à ça et je vais faire état notamment d'un sociologue que je connais, qui s'appelle Manuel Chautet, qui a écrit un ouvrage incroyable sur la valeur du footballeur. Mmh. Et lui démontre, et je reprends ses propos, que le talent est une construction sociale. Le talent, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que...
Pardon, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec... Je veux argumenter, mais juste, évidemment, quand on parle d'un artiste, d'un cinéaste, évidemment, oui. Il y a beaucoup de constructions sociales autour du talent d'un auteur, d'un cinéaste. Mais un footballeur, à un moment, il met des buts ou il n'en met pas. Enfin, le talent, il est là ou pas.
Oui, mais quand vous êtes plus jeune, qu'est-ce qui fait que socialement, le fait de jongler avec une balle, ça soit reconnu et valorisé dans une société?
Ah oui, tout à fait. Oui,
donc
oui,
ça,
oui,
déjà, oui, c'est, oui. Déjà, cette idée-là, cette idée de prendre cette disposition-là et d'en faire quelque chose plus ou moins d'intéressant et qui soit attrayant, est causé par l'environnement dans lequel on est. Et après, par la suite, faire de ce talent quelque chose de profitable, quelque chose qui génère du bénéfice à la fois symbolique, économique, social, c'est aussi le fruit d'une tout un processus d'optimisation dans lequel finalement une inclinaison va générer plusieurs autres inclinaisons jusqu'à arriver à une position à fois d'athlète, donc passer par des parcours de formation, des parcours de sélection, des parcours ultra concurrentiels et aussi s'accaparer des ressources qui vont permettre de évidemment transformer finalement cette disposition en talent aux yeux de tout le monde un soir de Ligue des Champions.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Quand Kylian Mbappé rend fou, zoom aujourd'hui sur ce qu'on appelle le projet Mbappé, cette pression mise par certains parents pour faire de leurs enfants les futures stars du ballon rond, analyse d'un phénomène qui devient un peu problématique avec le sociologue du sport, Séguir Lazeri. C'est quoi, Séguir, l'attitude des parents d'Mbappé quand il était gamin? Ils lui ont mis vraiment cette pression? C'est comme les Sir Williams, c'est pareil?
Alors, moi, je ne pense pas du tout. Et c'est ce qu'on remarque notamment chez les héritiers, ce qu'on appelle les héritiers, c'est-à-dire les sportifs dont les parents sont déjà eux-mêmes sportifs ou font partie de l'environnement sportif. Mm-hmm. J'ai entendu une interview de Christophe Gourcuff, qui était l'entraîneur de Lorient, qui est un grand entraîneur français, et le père effectivement de Johan Gourcuff, qui avait été désigné comme le futur Zidane à une certaine époque.
Oui, c'était effectivement. Ça a duré longtemps, mais on s'en souvient.
Eh bien, il expliquait qu'en fait, il ne mettait aucune pression à son enfant, qui ne parlait même pas des matchs après qu'il lui ait joué. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ces individus, enfin du coup les parents ou du moins cet entourage bien précis du milieu du sport ont tout un tas de ressources qui vont se transmettre à l'enfant de manière souvent indirecte par des micro-processus, le fait de faire baigner l'enfant dans un univers sportif. Mm-hmm. L'enfant va lui-même comprendre les enjeux qu'il y a autour de lui, comment il doit se mettre à disposition pour répondre aux attentes qu'on attend de lui. Et donc je pense que les parents de Kylian Mbappé, pour le coup, en fait, connaissent cet environnement, connaissent les dangers, les risques et autres, et c'est en ça que, sans doute, ils sont pertinents, mais moins peut-être dans les aspects plus techniques. Et je pense que...
Mais oui. Justement, le fait que ce soit d'anciens sportifs, ils ne vivent pas par procuration, d'une certaine manière, le talent et la célébrité de leur enfant?
Alors, je pense moins que des gens qui n'ont pas connu vraiment le haut niveau. La mère de Kylian Mbappé a été quand même à l'INSEP, a été formée au haut niveau, alors dans le handball, mais elle a quand même connaissance à peu près de l'environnement social dans lequel un athlète peut vivre, en fait, et peut survivre surtout, parce que c'est très compliqué. Elle connaît les rouages de l'optimisation sportive, c'est-à-dire qu'en gros, le système ultra concurrentiel, comment il faut négocier dans ces espaces-là, et ça, c'est sans doute l'élément supplémentaire. Et c'est pour ça que par moment, effectivement, c'est un plus que d'autres parents n'ont pas et que la majeure partie des gens, effectivement, n'ont pas du tout même, d'ailleurs.
Vous qui êtes au contact des sportifs, qui étudiez leur sociologie, est-ce qu'il n'y a pas une dérive? J'ai vu que les recruteurs cherchaient à détecter les joueurs, les futurs talents de plus en plus tôt, vers 8-9 ans. Est-ce qu'on ne risque pas, pour un Mbappé par génération, de gâcher la vie de pas mal de gosses qui vont même pas passer pro, en fait?
Mais littéralement, parce que en fait, il y en a un pour mille, en quelque sorte. Donc vous avez même parfois plus de chances de rentrer dans des grandes écoles quand vous venez d'un milieu très populaire que de devenir Kylian Mbappé. Mais le principe même du sport, c'est son invisibilité. C'est-à-dire que quand on voit un athlète sur le terrain, on s'imagine pas que derrière, il y a toute une industrie, de nombreuses institutions et aussi toute une disposition à la fois temporelle, c'est-à-dire investir du temps, investir de l'art, aussi un investissement spatial, c'est-à-dire qu'il faut être à côté des bons centres de formation parce qu'on n'a pas le droit de recruter à moins de 100 km. Donc il y a tout un investissement qui est quand même assez présent, mais qu'on ne voit pas sur le terrain. Sur le terrain, on voit juste un athlète qui donne à voir une prestation, un talent en quelque sorte, et puis finalement une consécration.
Mais à 8-9 ans, est-ce qu'on se rend compte de l'enjeu ou est-ce qu'on veut simplement jouer avec ses copains au foot?
Alors, on se rend compte de l'enjeu, on se rend compte qu'effectivement, ça crée de l'émulation. Le football a quand même cette beauté, le sport en soi, c'est qu'elle fait jaillir, elle rejoue toutes les palettes des émotions humaines. C'est-à-dire que quand on regarde un match de football ou quand on regarde un sport qu'on aime, ce qui se joue, c'est surtout en fait notre intimité, parce qu'on va voir, on va être au bout d'un moment crispé, on va être heureux, on va pleurer, et donc il y a cette sensation-là. Et je pense qu'il y a une forme de sensibilité, ça fait appel à la sensibilité, notamment peut-être des plus jeunes. Et en ce sens, ils ont envie de se procurer ce moment de joie et cette consécration. Et puis quand on voit tout l'amas autour, ils sont quand même conscients qu'il se passe quelque chose, et donc ça a effectivement un attrait, et c'est tout en fait ce que je voulais dire. Je voulais rajouter quelque chose, mais bon, je rajouterai par la suite.
On y reviendra, puisqu'on va encore revenir sur ce projet Mbappé. Le foot est évidemment le sport où la pression parentale est la plus forte, mais attention, car dans quelques années, on parlera certainement du projet lui, puisqu'il est clair qu'une fois né, Ayrton lui n'aura aucune échappatoire. Il sera déscolarisé s'il le faut dès le CM1, mais il deviendra un champion de Formule 1, pas vrai, Quentin?
Certainement, en tout cas, je vais y travailler.
Ah oui, il est content, c'est terrible, c'est terrible. Je suis en train d'écrire un scénario apocalyptique et lui, il se régale. Il est là, oui, je déscolarise, on s'en fout.
Vous savez ce que faisait le père de Verstappen?
Mais non.
Il l'enfermait dans sa voiture, en venant, dans le coffre, en venant des courses où il n'avait pas gagné.
Ah, c'est comme ça que vous allez éduquer le petit Ayrton, lui?
Il est 4 fois champion du monde.
Ah, bah oui, bah comme quoi ça paye. Ouais, un peu de discipline.
Un
bon exemple. Quentin, pour évoquer le projet Mbappé, vous avez été obligé de travailler le week-end.
9h53, un samedi matin. 3 degrés au bord du stade Émile-Antoine. Je maudis Cyril Lacarrière sur plusieurs générations. Mais c'était le seul créneau disponible pour assister au match des U10, U13, U14, dans un cadre particulier, puisque nous sommes au pied de la Tour Eiffel. Je repère ce monsieur, doudoune grise, main dans les poches, tête rentrée dans la capuche.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom?
Nicolas. Je suis restaurateur.
Qu'est-ce que vous faites par 3 degrés?
Ouais.
Au bord d'un stade?
J'accompagne ma fille tous les samedis matins à ses matchs. Projet Mbappé. Ah, le fameux ticket de loto?
C'est ça.
Bah, il faut bien trouver quelque chose. Hein. Les retraites, c'est mal barré. Donc.
La loterie du foot, mais surtout l'argent qu'on évoque directement. Est-ce qu'il a observé le phénomène dans les clubs?
Je l'ai observé parce que ma fille, en fait, on a quitté notre ancien club qui était le Paris FC parce que justement, il y avait trop de pression et ça l'a saoulée. Elle s'amusait plus. Je vais pas dire que ça l'a dégoûtée du foot, mais on n'en est pas loin. Il y avait beaucoup de turnover chez les coachs, qui cherchaient des coachs de moins en moins pédagogiques et de plus en plus fixés sur les résultats. Donc c'est quelque chose qui lui plaisait pas, quoi.
Je salue Nicolas qui nous parle d'une pression du club, mais aussi venu du bord du terrain. Ce papa à côté réagit.
Oui, bah effectivement, on voit des parents qui mettent une pression énorme à leurs enfants sur leur façon de jouer, leur façon de se comporter, leur façon d'évoluer sur un terrain, et en espérant sûrement faire le prochain Mbappé du vu de scène où certains parents allaient jusqu'à insulter les autres joueurs des équipes adverses pour...
Ils insultent les enfants?
Oui.
Comment on insulte un enfant?
J'ai eu une coach dire à ses joueuses: la 6, je veux la voir sortir sur une civière.
Hey, c'est violent. Le match des U10 vient de se terminer. Ils ont perdu, mais ils sont en forme.
Bonjour. Nadim, Oscar, Hippolyte,
Adam,
G,
Emeric,
Arsène,
Maxime.
Et toi?
Axel.
Qui me raconte le match déjà?
Ils nous mettaient des balayettes tout le temps, donc on tombait tout le temps. J'ai souvent simulé aussi.
Ça a payé ou pas?
Oui, bien sûr. Mais on a eu un pénalty refusé, bien sûr.
Le score, c'est quoi?
4-3 pour eux.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, il s'est passé que déjà, je me suis pris un ballon dans le ventre, j'ai cru que j'allais mourir.
Oh.
On a été en manque d'efficacité sur le placement de terrain et sur la finition.
Comme une petite analyse. À la fin, je leur demande pourquoi, selon eux, nous faisons une émission autour du...
Projet Mbappé. Pour avoir une bonne carrière au Real Madrid.
Toi, t'aimerais... qui veut faire un projet Mbappé ici? Qui veut devenir comme Mbappé? Ah oui, tout le monde lève le doigt.
C'est qu'en fait, quand on est passionné par le foot, on a envie de...
Devenir des joueurs de foot, quoi.
Ouais, on a envie de devenir ce que les pros deviennent.
Pourquoi?
Bah, ça a l'air super.
Bah, moi, perso, pour gagner un peu de pognon, quoi.
Certainement entendu à la maison. Hein, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie, eux aussi, de devenir le nouveau Kylian Mbappé?
Bah, tout le monde te connaît, tout le monde t'acclame quand tu rentres sur le terrain, c'est cool.
Voilà, tout le monde t'acclame quand tu rentres sur le terrain.
Moi aussi, t'as des places VIP au cinéma ou des trucs comme ça.
Et genre, tu peux avoir une limousine tout seul sans payer l'essence.
Et on klaxonne toi aussi, on klaxonne toi. C'est ça qui est cool, quand t'es dans ta limousine, on klaxonne toi.
Ouais. Et alors qu'ils chantent leur cri de guerre, malgré la défaite, je les regarde, ces petits gars qui rêvent d'argent, de limousine et de gloire. Juste à côté, il y a un autre groupe d'enfants, décidément les matchs s'enchaînent à une vitesse. Je m'approche de leur coach jeune, milieu de vingtaine, tout en survêt, long manteau avec le logo du club. Je fais lire à Alexandre notre sujet du jour, il voit très bien.
Roger Mbappé. Et le problème c'est que voilà, c'est surtout dans les petites catégories que les parents sont très présents. Et on a des parents qui sur le côté, c'est comme on appelle chez nous, PlayStation, c'est qu'ils prennent leurs enfants et c'est, ils ont une manette dans les mains et leur disent fais ça. Mais je disais, mais monsieur, laissez-nous faire notre métier, etc. Ah non, mais je veux qu'il marque des buts. Les parents, c'est crochet, tir. Moi,
c'est les parents PlayStation.
C'est ça. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est parents PlayStation, c'est qu'ils contrôlent leurs enfants directement. Parfois, c'est comme je vous dis, c'est pas forcément malveillant, mais c'est maladroit.
Qu'est-ce que c'est que cette génération de parents qui ont un plan, un projet, une folie des grandeurs pour leur progéniture, un rêve peut-être inachevé, un prolongement de soi, ou un enfant FIFA, drivé par un parent PlayStation? Vous connaissez le slogan de PlayStation ? Play has no limit ? À bien y penser, le slogan n'aura jamais été aussi vrai.
Séguir Lazeri, sociologue du sport, est avec nous pour comprendre ce projet Mbappé qui agite le foot amateur et surtout les catégories de jeunes. Est-ce que c'est vraiment neuf? Parce que Mbappé, c'est récent, mais on en parle un peu en antenne. Moi, je fais du foot, j'étais en poussin, en pupille. Je me souviens d'une baston un jour à Bonneville. Les parents des enfants d'un côté sont attaqués ceux de l'autre. Enfin, il y avait déjà une électricité autour du foot. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau quand même avec ce projet Mbappé?
Alors non, c'est pas nouveau, hein. Bien sûr, si vous regardez les mêmes d'ailleurs, la famille Noah par exemple, on voit que le grand-père était footballeur, le fils, donc Yannick, était tennisman, et l'enfant, et donc le petit-fils, Joachim, est devenu basketteur. Donc effectivement, donc il y a une filiation. Alors la question de l'investissement est sans doute très importante. La question du surinvestissement, aujourd'hui, est peut-être plus apparent et plus neuf parce que les athlètes, notamment les footballeurs, laissent savoir ce qu'ils sont devenus. C'est-à-dire qu'avant, on ne connaissait pas, par exemple, pas le salaire de Mbappé, on ne savait pas où il vivait. Il y avait très peu d'images sur ses vacances ou autre. Et là, tout ça, c'est devenu visible. Donc forcément, ça crée un attrait.
On voit que l'argent est au cœur de tout. L'argent, on parle de limousine, on parle de l'auto. C'est la génération de joueurs qui inspire ça. À l'époque de Zizou, on ne voulait pas forcément... c'était pas pour sa voiture.
On ne connaissait pas forcément son salaire.
Effectivement, on ne connaissait pas forcément son salaire. On n'avait pas toutes ces informations-là en dehors du terrain, en quelque sorte. Mais surtout, ce que je pense très important, c'est qu'on parle de loterie. Finalement, c'est une contre-loterie. Parce que la loterie, c'est le coup du hasard. Alors que là, finalement, il y a l'idée de calculer, devenir un peu maître, finalement, du destin de l'enfant. Et autre point très important, c'est qu'on parle d'argent, on parle de protection, donc de mettre, en gros, la famille à l'abri. C'est un peu sur ce thème-là que ça joue, mais on doit parler aussi de reconnaissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents sont présents sur la scène. Donc, il y a l'idée aussi d'être reconnu en tant que parent, parce que avant, finalement, on investissait l'enfant, mais c'était l'enfant qui était consacré. Là, en tant que parent, on peut être consacré.
Ça rejoint ce que disait Ibrahimovic dans le son de tout à l'heure.
Effectivement. Et ça, c'est, je pense, un signe c'est quelque chose de très significatif aujourd'hui, je pense, par rapport à ce qui se produisait avant.
On entendait le coach qui parlait de la proximité des parents avec les terrains de jeu. Il faudrait un cadre où les parents se tiennent aussi éloignés du terrain de leurs enfants, qu'ils les laissent un petit peu.
Alors, il faudrait un cadre, on ne peut pas délimiter les espaces de manière physique ou autre, mais effectivement, il faudrait peut-être une campagne de peut-être de promotion ou de communication autour de ça pour bien séparer les rôles, laisser aussi à l'entraîneur le soin aussi d'effectuer son travail et d'offrir aussi à l'enfant une autre sociabilité,
son
football,
espace
effectivement, et son espace. Je pense qu'il faut beaucoup de vigilance. Je pense que c'est fait aussi par la fédération qui a pris en main ce sujet-là, mais c'est très compliqué aussi à gérer au quotidien parce que le projet Mbappé, il repose pas que autour du terrain. Il repose aussi que parfois le père ou le parent emmène son fils en dehors des zones d'entraînement, effectivement, le fasse entraîner. Et la limite, ce serait qu'effectivement que l'espace de loisir, l'espace de lien entre le parent et l'enfant ne devienne pas un espace d'ultra performance et d'optimisation en vue d'une réussite potentielle d'ailleurs.
France Inter. Zoom zoom zoom. Mathieu Noël.
Voir votre fils unique, Ayrton, lui, intégrer l'écurie Ferrari, puis remporter son premier Grand Prix de Monaco avant de tomber dans la drogue parce que vous l'aurez déscolarisé à 8 ans et qu'il vous en voudra à jamais d'avoir réduit l'horizon de ses possibles à un volant de monoplace. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre fils, Quentin ? C'est honteux, non. C'est pourquoi vous démarrez le quiz avec 2 points de pénalité. Ah. Jouons au Zoom Zoom Test. À la rencontre aujourd'hui de ces ex-champions qui sont allés au bout de leur rêve avant de sombrer dans le cauchemar. Comme Gérald Darnaud, mon auteur, qui rêvait de bosser avec Antoine Decaune et qui se retrouve responsable de la machine à café de Zoom Zoom Zen. Il sera dédommagé de son sacrifice vendredi puisqu'on recevra Antoine Decaune pour parler des Beatles, petit rayon de lumière réchauffant un peu la déchéance d'une carrière professionnelle débutée sous les auspices pourtant prometteurs du Crédit Agricole. Bref, de déchéance, il sera question dans ce quiz sous forme de « Qui suis-je ?». Top ! Je suis né en 1961 et j'ai été une star mondiale de mon sport dans les années 90 où l'on me surnommait The Worm, le ver de terre, ce qui franchement n'avait aucun sens car j'étais plutôt baraqué. Sur les terrains, je ne craignais pas d'aller au contact, mais il faut croire que tous ces chocs ont fait bobo à ma tête puisque côté vie privée, j'ai défrayé la chronique à maintes reprises en me mariant avec moi-même, en participant à tout ce que la télé-réalité compte de pire, de Love Island à Celebrity Rehab, car oui, j'ai aussi un gros problème d'alcool, alors pas aussi grave que celui de la Marianoche, mais grave quand même. Durant les 8 ans qu'ont duré mon mariage avec Carmen Electra, la police a dû intervenir 80 fois à mon domicile. Dans les années 2010, j'ai tenté de me lancer dans le catch. Mais mon surnom, le plus célèbre Demolition Man, c'est bien sur les parquets de la NBA que je l'ai gagné avec les Chicago Bulls où Michael Jordan m'avait imposé dans le 5 majeur.
Dennis Rodman,
ah, bonne réponse de notre invité. Le seul qui suit, effectivement, c'est Guir. Dennis Rodman, bien sûr, le roi du rebond. 5 titres NBA sans quasiment jamais mettre un seul panier. Il est évidemment aujourd'hui fan de Donald Trump après avoir été fan de Kim Jong-un. L'occasion de se réécouter ce petit ange des jingles parti trop tôt puisque je viens de réaliser qu'on ne l'entend plus jamais alors que ça devait être notre gimmick NBA. Ah oui.
On l'entend vraiment tous les jours.
C'est vrai, on l'entend tous les jours ?
Toutes les
heures. Non, ces derniers temps, je ne l'ai pas entendu, moi.
Mais Mathieu,
vous avez écrit ça sur votre quiz là ?
Oui, c'est vrai. Oui. Il me semblait que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu.
Ça se passe bien, tu n'es pas trop sur la corde.
Non, mais vous savez quoi ? Je pense que je m'y suis habitué.
Oui,
au début, je trouvais que c'était très NBA. Et c'est vrai que maintenant que je l'entends là, c'est vrai qu'on l'entend tout le temps. Un point pour moi, pour moi. Ouais. Mais attention, les amis, pas le temps de pleurer, notre jingle, c'est parti. Programmé pour gagner par mon père, je suis le plus jeune joueur à avoir remporté Wimbledon ainsi que le premier à servir à plus de 200 km/h, soit 175 km/h de plus que feu le scooter chinois de Cyril Lacarrière. Numéro 1 mondial en 91, ma carrière sera ensuite une montagne russe, bien que je ne le sois pas russe. Ensuite, parcours classique, un divorce à 25 millions, poker, lancement de parfum, business foireux, faillite personnelle, utilisation de faux passeports pour culminer à 24 chefs d'inculpation en 2022 et boum boum la prison, ich bin.
Mais non, bah je vois pas hein.
Ich bin.
Un joueur allemand
de tennis, bien sûr.
Je l'ai pas. Je l'ai pas non plus.
Sociologue du sport. Boris.
Boris Becker.
Boris Becker, mais c'est trop tard, c'est Guir, je ne peux pas donner le point à Boris Becker qui reste néanmoins tourné vers l'avenir puisqu'il vient de se remarier une troisième fois au mois de septembre. Ouais. Et peu importe si au total il a encore.
Non, il y a peut-être un moment où on va avoir des sportifs de notre génération, ce serait bien
clair.
Pour jouer.
91, on est net donc.
Oui, ça ne s'empêche pas de s'intéresser à l'histoire.
Pas de problème. On ira à l'Atlas, allez-y.
On continue. Attention, top. Comme votre réalisateur Ghislain Fontana qui a commencé et qui terminera sa carrière cracheur de feu à Rennes, j'ai fini et terminé la mienne comme basketteuse. Mais ça, personne s'en souvient, je dirais même que tout le monde s'en fout.
Oui, Marion Jones.
Marion Jones, oui Manon. Vous êtes la mémoire de l'athlétisme mondial. Je n'ai même pas eu le temps de dérouler la bio. Vous l'aviez déjà, oui, Marion Jones, troisième femme la plus rapide du monde sur 100 mètres et 200 mètres et triple championne du monde. J'ai perdu mes 5 titres olympiques après avoir avoué m'être dopé. Je suis donc Marion Jones. Quentin, va falloir vous ressaisir.
Oui.
Peut-être avec cette question. Top.
Ouais,
de moi, l'histoire de la musique retiendra mon album de slam Des gens bien.
Oula.
L'histoire de la littérature, mon autobiographie Balle au centre. La rubrique Fait divers retiendra, elle, qu'il vaut mieux ne pas me refuser l'accès dans une boîte de nuit, sinon avec mes frangins, on revient pour te fumer. Tony Vérel, il est allé très très vite, il va me foirer mon quiz parce qu'il répond trop vite aux questions, il est trop fort, c'est notre invité, c'est Guir, effectivement. C'était Tony Vérel. Alors il jouait où, Tony Vérel ?
Vers
Alors il jouait pas en prison,
il est
Navarro.
Il est âgé aussi, non ?
C'est à Lyon, mais surtout connu pour la victoire, l'unique victoire du Vers Lens, mon club de cœur.
Ah, c'est votre club de cœur ?
Bien sûr.
Et c'est champion de France 1990, aussi champion de France du mulet. Il avait cette petite coupe, cette petite...
C'était le charbon.
Et pour l'anecdote, vous saviez que Cristiano Ronaldo avait été proposé en échange de Tony Vérel par Jean-Michel Aulas à Lyon, au moment où il jouait à Lyon. On lui avait proposé effectivement en échange de Tony Vérel au Sporting, où effectivement il jouait, il était à 17 ans, il était au Sporting, on lui avait proposé Tony Vérel plus... Cristiano Ronaldo plus une somme d'argent contre Tony Vérel. Voilà, et Jean-Michel Aulas s'est passé à côté.
Donc, ça, c'est une anecdote.
C'est une fun fact en fin de soirée.
Effectivement, elle est pas mal. Enfin, attention, top. En 2012, je fais partie des 100 personnes les plus influentes au monde selon le magazine Time, qui me qualifie carrément de définition même de l'inspiration au niveau mondial. 6 médailles d'or dans 3 Olympiades différentes, mais pas en tir à balles réelles, où je me suis tristement distingué en faisant un carton sur ma compagne à travers la porte de la salle de bain.
Oscar Pistorius.
Oscar Pistorius, et je crois qu'on est sur une victoire de l'invité.
Bravo.
Alors là, je dois dire que là, l'invité était imbattable aujourd'hui.
Je suis déçu, Quentin. Ah, moi aussi, je pensais que c'était pour vous,
Je suis déçu de moi.
Ouais. Oui.
Quand il n'y a pas de Formule 1, il n'y a plus personne.
Oui, c'est vrai que...
Pas de questions sur les Lewis Hamilton, du coup, pas de points.
Non, mais puis pas de questions sur des sportifs de notre génération.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Vous m'agacez.
Vous êtes en quelle année ?
Vous m'agacez. 1982.
Ça s'entend.
Très bien. Quentin, vous démarrez demain le quiz. Non, vous savez quoi ? Demain, vous démarrez pas le quiz. Manon jouera toute seule. Zoom aujourd'hui sur le projet Mbappé, ce phénomène autour des terrains de foot. Et pas seulement, quand les parents mettent la pression sur leurs gosses pour en faire de nouvelles stars du sport. Le sociologue du sport, Séguir Lazeri, est toujours avec nous. Est-ce que les JO ont accentué ce phénomène quand on voit des jeunes champions comme Léon Marchand ou les frères Lebrun ? Est-ce que ça risque, ce phénomène Mbappé, de s'étendre à tous les sports, finalement ?
Alors, il faut avoir un peu plus de temps de recul pour quand même mesurer la chose, mais néanmoins, c'est vrai que ça a offert une visibilité, ça a consacré notamment des athlètes comme effectivement Léon Marchand, qui a été un peu l'idole, au point que finalement, il a éteindre la flamme. Donc, effectivement, ça va peut-être susciter des vocations. Après, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut avoir vraiment des ressources. Et notamment pour le cas de la natation ou, par exemple, du tennis de table, on n'est pas dans le même régime d'optimisation que l'aile football. Donc, effectivement, on recrute beaucoup plus tardivement. Il faut avoir souvent un foyer quand même qui est déjà acclimaté à cette pratique. Pour le cas de Léon Marchand, son père, sa mère étaient nageurs, donc ils connaissent l'environnement parfait de la natation. Les frères Lebrun, même chose. Donc eux, ils ont quand même des ressources très significatives quand même pour devenir des champions.
Plus globalement, cette implication des parents dans la carrière sportive de leur progéniture, ça induit un nouveau biais sociologiquement. Genre les plus riches, les plus fortunés vont avoir plus les moyens, je sais pas, pour accompagner leurs gosses partout, leur payer les meilleurs coachs, etc.
Alors littéralement, d'ailleurs, c'est ce qui fausse un peu la donne concernant le projet Mbappé, c'est qu'on pense qu'on a toujours cette image d'ascension sociale, c'est ça. C'est la grande promesse du sport, parce que le sport théâtralise la société et l'idéalise. C'est-à-dire qu'à travers le sport, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la société se réaliser le plus parfaitement possible. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous êtes tous sur la même ligne de départ et à force de mérite, de dépassement de soi, vous vous affranchissez de votre condition et vous accédez à l'ascension. Ce qui se produit, c'est que statistiquement parlant, on se rend compte que en fait, les plus vulnérables ne réussissent pas. Parce que, effectivement, pour faire un projet Mbappé, il faut que vous ayez du temps, il faut que vous preniez votre voiture tous les samedis, donc vous payez l'essence. Il faut que vous ayez un travail plus ou moins confortable qui vous permet de libérer du temps pour l'enfant. Il faut que vous lui payez quand même un équipement, parce que ça coûte quand même de l'argent d'avoir des bonnes chaussures ou autre. Il faut que vous-même, vous soyez dans des dispositions matérielles qui permettent finalement d'investir finalement plus ou moins sur votre enfant. Investir, je dis ça entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est quand même sujet à polémique. Mais néanmoins, effectivement, ça repose sur des conditions matérielles et surtout autre chose, un point très important, il faut que ça ait un sens aussi pour les parents. C'est-à-dire que si vous êtes pris dans autre chose, il faut que cette pratique, elle résonne dans votre environnement. Il faut que vous puissiez l'investir.
Ces dernières années, il y a eu quand même des dénonciations d'abus de sexuels, d'abus psychologiques de la part d'entraîneurs envers des sportifs, des jeunes sportifs et sportives. Vous pensez que ça conditionne aussi l'implication des parents aujourd'hui ?
Effectivement, ça conditionne effectivement l'implication des parents parce qu'on veut plus ou moins avoir une sorte de contrôle. Mais néanmoins, il faut comprendre qu'il y a aussi une forme de confiance totale en l'institution sportive.
C'est
que,
encore
aujourd'hui, bien sûr, et encore aujourd'hui, on est dans un rapport. Le sport est comme un environnement où le corps est en jeu, où le corps est totalement malléable et doit être transformé. Quand vous rentrez dans une structure sportive, c'est une structure sacrée. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris avant, et moi je me souviens qu'il y avait une interview qui avait été donnée par Florian Thauvin à un youtubeur que j'écoutais comme ça, où il expliquait qu'il avait tout appris au centre de formation, alors que c'était déjà le meilleur de la sélection de sa zone, de la zone géographique où il était, donc à Orléans. Et il dit, bah, c'est là que j'ai tout appris. Donc en fait, il y a une confiance même aveugle envers ça. Et c'est là qu'en fait, les violences interviennent et la mainmise parfois de l'entraîneur, l'emprise en quelque sorte, peut ainsi naître et émerger. Oui.
Et quand bien même il est repéré psychologiquement, est-ce qu'on est armé, est-ce qu'on reste équilibré? C'est ce qui arrivait à Thierry Henry bien avant Kylian Mbappé. Il raconte qu'il a toujours été programmé par son père pour devenir un footballeur professionnel. Et du coup, il explique qu'il était en dépression tout au long de sa carrière. Il y en a d'autres dans son cas.
Effectivement, il y en a d'autres, il y a plein d'attentes. Je citerai une collègue qui a énormément travaillé sur la question, qui s'appelle Lucie Forte, qui a travaillé sur les parcours des athlètes de haut niveau. Elle démontre totalement que parfois être un héritier ou avoir quelqu'un de son entourage, notamment un parent qui connaît très bien le monde du football et qui va vous solliciter énormément pour faire carrière, est une pression peu recommandable pour une réussite. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants ou les futurs athlètes craquent parce que ça devient insupportable pour eux.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Manon, qui est donc l'autre personne à suivre aujourd'hui?
Eh bien, je vous présente Victoria Beckham.
Ah, tiens donc.
Elle a 50 ans, elle est anglaise et on la connaît aussi sous le nom de Poche. L'ancienne Spice Girl est depuis devenue une styliste internationalement reconnue avec sa marque, mais difficile de parler de Victoria sans parler de sa moitié, David. Car dans cette émission, on a évoqué le pouvoir des familles, notamment des mamans, derrière les carrières de certains joueurs de foot, mais il y a aussi les femmes. Victoria Beckham en est l'exemple parfait. Sans elle, David Beckham ne serait pas devenu l'icône qu'il est aujourd'hui. Retour en 1997, les deux stars se rencontrent lors d'un match de foot opposant le club de Manchester United à celui de Chelsea. C'est le coup de foot. Tout se passe très vite entre eux. L'année d'après, ils se fiancent, puis se marient en 1999. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'image de David Beckham a bien changé durant ces années-là. À la base, il était un joueur de foot, certes, mignon, mais sans véritable style. Mais avec Victoria à ses côtés, David Beckham devient plus qu'un joueur de foot, il devient une star. Elle l'aide à perfectionner son style vestimentaire, notamment. Ils s'affichent, par exemple, ensemble, en tenue full cuir, lors d'un événement. David change de coupe, se fait un petit piercing à l'oreille, blanchit ses dents. Au fur et à mesure, le couple devient une véritable entité médiatique. Les paparazzi les poursuivent. Ils arrivent à construire un récit autour d'eux qui allie glamour, famille et réussite. Victoria Beckham est également une stratège en matière de partenariat. Elle incite son mari à accepter des contrats publicitaires avec des marques comme Adidas, H&M et Armani. David Beckham est propulsé sur des affiches grandeur nature partout dans le monde. Grâce à sa femme, David Beckham est l'un des seuls joueurs de foot à la retraite qui est aussi connu que lorsqu'il jouait encore. Ils ont aujourd'hui 3 enfants. Ils font la coupe de Vogue, qui ont des millions de followers sur les réseaux sociaux, où ils partagent des vidéos de leur famille parfaite. Un documentaire sur David Beckham a d'ailleurs cartonné l'année dernière. Documentaire qui revient justement sur l'ascension de Beckham et l'impact qu'a eu Victoria sur son image. On voit à quel point les deux sont devenus indissociables aujourd'hui. D'ailleurs, Netflix va bientôt sortir un documentaire, cette fois-ci consacré à Victoria Beckham. Le couple star n'est pas prêt à arrêter de faire parler de lui.
Merci Manon. Séguir, il faudrait faire la sociologie des femmes de footballeurs.
Ah oui, il faudrait faire. Il y a déjà des articles qui ont été publiés, hein, notamment... notamment par un sociologue qui s'appelle Bolli, hein, je ne sais plus exactement, Wilfried Bolli, il me semble. C'est pas Wilfried Bolli, mais je vais le retrouver.
Mais c'est Bolli.
C'est Bolli.
Pas Basile.
Voilà, et pas Basile, qui a écrit un papier très intéressant sur ça. Effectivement, c'est un impact considérable, d'où effectivement le projet Mbappé, c'est que vous faites bénéficier un réseau tout entier. Et là, pour le cas de Victoria Beckham, il y a une convergence en quelque sorte des espaces. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le football, et notamment dans le football de haut niveau, vous êtes dans le registre du spectacle. Vous êtes dans cette théâtralisation. Et il y a une convergence qui va se faire, notamment parce que Victoria Beckham était une ancienne Spice Girl, et donc du coup elle a aussi trouvé peut-être aussi une forme d'intérêt. Il y a une convergence déjà parce qu'ils fréquentent les mêmes milieux, donc ils vont se rencontrer à peu près aux mêmes endroits, et puis il y a un intérêt qui fait que ils vont tirer profit chacun à peu près de leur carrière, à la fois une notoriété sportive qui a légitimé la position de Victoria Beckham, a aimé quelqu'un qui est grand, et puis finalement aussi David Beckham a tiré un profit en s'inscrivant dans un espace beaucoup plus populaire aussi.
Eva Longoria, Tony Parker, à une époque aussi.
Il y a toujours cet aspect-là. Même d'ailleurs, je vais rajouter quelque chose de très intéressant
très court,
c'est que même l'industrie du sport aussi s'associe aux industries culturelles et musicales pour donner un supplément d'âme et pour encore élargir le public du champ sportif.
C'est du win-win.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il y a une alternative heureuse au projet Mbappé qui met une pression dingue sur les gosses et les éducateurs, le projet Jésus. Mis en place par l'abbé Chibrard lorsqu'il entraînait les pupilles de la S Notre-Dame de Lourdes, il insistait sur le fait qu'au final, peu importe qu'on s'entraîne dur, qu'on fasse des séries d'abdos ou qu'on travaille les corners, car in fine, c'est Dieu qui décide si la balle entre ou pas. Pour Pierre Courade, elle n'est jamais entrée, c'est pourquoi il n'a pas de regret. C'était pas ses deux pieds gauches, c'était la volonté du Seigneur. Sans rancune, donc, Pierre, vous allez nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et cet après-midi, on a parlé du projet Mbappé. Mais au vu des récents résultats sportifs du capitaine de l'équipe de France, on devrait renommer ce phénomène projet Dupont ou projet Marchand. Mais bon, on va dire que le foot est encore tristement le sport le plus populaire de France. Donc, ce projet Mbappé, ce sont des parents qui rêvent de faire de leurs enfants les futurs cracks du foot, quitte à leur mettre une pression malsaine très tôt. Ainsi, à l'âge où on tape dans un ballon rond ou ovale juste pour jouer avec ses copains, des gamins sont poussés à l'excellence par des parents qui reportent sur eux des frustrations enfouies. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Au pire, c'est l'appât du gain qui motive ses parents, le fameux ticket de loto, belle expression utilisée par un papa rencontré par Quentin au bord d'un terrain. Gagner beaucoup d'argent sur le dos de leur gamin, c'est malheureusement aussi la conséquence des dérives du foot. Les recruteurs se promènent au bord des terrains d'entraînement des enfants de plus en plus jeunes, ce qui pousse certains parents à protester quand les coachs ne font pas assez jouer leur progéniture. Et bien en fait, tout ce que je viens de décrire en écoutant Seguir Lazeri, notre invité sociologue du sport, c'était à peu près plus ou moins l'inverse de l'attitude des propres parents de Kylian Mbappé, qui eux connaissent bien le milieu du sport, ils entourent leur fils jusqu'à aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu besoin de mettre une telle pression de tous les instants sur leur enfant. C'est la différence entre les parents qui pensent que le foot se joue comme sur la PlayStation et ceux qui peuvent réellement jouer avec leur fils sur la PlayStation.
Merci pour ce résumé, Pierre Courade. Les enfants qui ont été des projets Mbappé ne s'en tirent pas indemnes. Oh non, nous avons aujourd'hui avec nous une survivante, Rosa Burstein. Quel type de projet étiez-vous pour vos parents ?
Cher Mathieu, mes parents avaient pour moi le projet Einstein. Ils pensaient que comme nos noms finissaient pareil, je pourrais moi aussi devenir un génie des sciences. J'ai fait de mon mieux, ça n'a pas marché pour les maths. Mais bon, on peut dire quand même que je suis devenue une bombe atomique. Hein, Quentin, quand tu me vois, il y a toujours un petit Hiroshima dans ton cœur. Hein, ça pourrait être un titre d'album Indochine, Hiroshima dans ton cœur. Mais oui, bien sûr, mes parents me mettaient une pression de ouf. Mon père était taré, en fait. J'avais obligation de réussir pour honorer la mémoire de ses parents, tous les deux morts avant ma naissance. Donc si le soir, en rentrant, au lieu de faire mes devoirs, je voulais mater la télé, il les invoquait. Okay. Comment ? Tu crois que tes grands-parents, ils regardaient un gars et une fille ? Mais tes grands-parents, ils étaient résistants à la FDP Moy ! Francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée ! Je comprenais pas, je me disais, un gars et une fille, ça existait déjà en 42 ? Il est si vieux que ça, Jean Dujardin ? Ça veut dire que Chouchou et Loulou, c'était des collabos ! Mais rien à y faire, fallait bosser. Quand je traînassais un peu trop longtemps dans la douche le matin, mon père mettait l'eau froide parce que c'est grâce à l'eau froide que ton grand-père n'a pas attrapé le typhus. Il se lavait dans le lac glacé à côté du camp de concentration allemand dont il a réussi à s'échapper. Bon bah ça mettait un petit coup de speed, hein. Et clairement, une inquiétude pour tout ce qui est douche. Et ma mère n'était pas en reste. Dès le CM1, elle était prête à accorder des faveurs sexuelles au maître Monsieur Bonnard pour que je réussisse. Sauf que j'avais déjà des bonnes notes, donc je crois qu'elle le trouvait juste sexy. Voilà. Elle venait avec des bottines léopard en sortie scolaire qu'elle a jamais mise pour mon père. Et surtout, elle voulait que je cartonne ma bat mitzvah. C'est la communion pour les juifs. Moi, je m'imaginais une grosse fête, plein de cadeaux, une immense pièce montée et un rabbin DJ au platine. Pas du tout. Déjà, je l'ai faite à 11 ans au lieu de 13 et mes parents avaient transformé le projet en thèse. Ils faisaient venir des exégètes à la maison pour que chacun donne une interprétation différente du texte que j'allais présenter. Même le projet loi de finances, c'est plus fun que ça. Et je voyais bien que dans les autres religions, le slogan était clair, alors que dans la mienne, bah, c'est comme la gauche en ce moment, personne n'est jamais d'accord et tout le monde s'étripe. Le jour de ma bat mitzvah, je me suis retrouvée avec trois ados boutonneux de 15 ans qui ne savaient pas les prières et moi j'avais apporté mon mémoire sur l'héritage bundiste diasporique dans le livre du Lévitique et sa relecture freudienne et clitoridienne, tome 1. Or, malgré tous les efforts de mes parents, j'ai pas fait normal sup, j'ai fait des blagues de bite. Sur scène et sur France Inter, avec un Suisse, un viandard, une alcoolo et un gars qui fait des micro-trottoirs. C'est con, hein, si tu veux trop que ton enfant devienne Mbappé, il va forcément finir comme Steve Savidan. Oui, exactement, personne ne sait qui c'est. Mais ouais.
Steve Savidan.
Philippe Candeloro, ouais, tu le connais.
Mais pas Savidan, oui. Savidan.
Ah oui, Savidan. Bon, bref, personne ne le connaît. Voilà. C'est comme Philippe Candeloro, patineur devenu présentateur qui fait des blagues racistes à la télé. Bah, ses parents à lui devaient rêver qu'il devienne danseur étoile. Ils ont trop poussé et raté. Faut pas mettre la pression. Moi, le jour où j'ai des enfants, je leur dirai Tu n'as pas à me rendre fière, ni ton papy, ni ta mamie. C'est pour toi que tu travailles, ma fille. Après, je vais pas te mentir, tu ferais une excellente présidente de la République.
Merci beaucoup, Rosa Burstein. On vous retrouve sur scène au Théâtre de l'Œuvre tout le mois de mars 2025, dis donc, du mercredi au samedi. Vous êtes également en tournée, notamment le 7 décembre prochain à Saint-Étienne. Allez le signaler. Merci, Séguir Lazeri, de nous avoir éclairé sur ce phénomène du foot amateur, le projet Mbappé. Je rappelle que vous êtes sociologue du sport, notamment à l'IRIS EHESS.
Zoom Zen.